Et finalement, le rêve américain prit fin. Pas de troisième étoile pour l'équipe de France, éliminée de la Coupe du Monde de football en demi-finale face à l'Espagne, 2-0. Je vous propose de disséquer ce match, débâcle progressive, mais finalement inéluctable. À aucun moment, les Bleus n'ont semblé pouvoir sortir du piège espagnol. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC. Avec lui, j'essaye de comprendre ce qui n'a pas fonctionné chez les Bleus. Ont-ils été en dessous ou les Espagnols étaient-ils vraiment au-dessus? Les Français payent-ils leur statut de grand favori, trop lourd à porter? Enfin, quelle leçon tirer de cette défaite? Ce sera Zinedine Zidane de le faire, lui qui est pressenti pour succéder à Didier Deschamps très prochainement. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
L'Espagne qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre et on a le traditionnel décompte. 10, 9, 8, 7.
Il est 14h à Dallas lorsque la France et l'Espagne se retrouvent sur la pelouse de l'AT&T Stadium.
3, 2, 1 et c'est parti pour le coup d'envoi de cette demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne. Les Espagnols qui gardent la possession, qui ne jettent pas la balle avec une transversale en touche et tout de suite les Bleus positionnés pour contre.
Au commentaire sur RMC, Jean-Louis Tour et Florent Germain.
Et la porte, deux équipes qui se craignent, ça se voit quand même dans la possession, il n'y a pas encore eu...
France-Espagne, deux des favoris de cette Coupe du Monde américaine. Les Bleus sont vice-champions du monde après avoir été sacrés en 2018. La Roja, elle, est championne d'Europe en titre, en quête d'une seconde étoile au Mondial après son unique victoire en 2010. Mais dès la 8e minute du match...
C'est l'intervention de Rabiot, elle est parfaite celle-là. Elle est parfaite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a coup de sifflet, il y a coup franc pour l'Espagne.
Ça,
mais elle était parfaite cette intervention d'Adrien Rabiot. Coup franc ultra dangereux pour les Espagnols à venir. À un mètre seulement de la surface de réparation de Mike Maignan.
Adrien Rabiot écrase le pied de Dani Olmo. Le milieu français écrase l'Espagnol juste devant la surface de réparation.
Au ralenti, on voit qu'il touche le ballon Adrien Rabiot. Mais qu'il marche sur le pied très clairement de Dani Olmo. Donc la faute peut se comprendre à la vue de l'image, même si en première intention c'était de dire pour nous, alors il va y avoir un carton ou pas? Ouais, carton jaune en plus pour Adrien Rabiot.
Heureusement pour les Bleus.
Avec le pied droit, c'est tiré, c'est dans le mur directement, récupéré par Yamal.
Le coup franc espagnol rate sa cible.
Dembélé qui va alerter Mbappé, il y a un coup à jouer. Allez, Kylian, le contrôle, pourquoi pas, il a avancé, il va dribbler, il va y aller.
Les Français retrouvent de l'air.
Il décale Olise dans la surface de réparation avec son pied gauche, la frappe. Contrée de Michael Olise et corner à venir pour l'équipe de France. En une action, les Bleus ont rappelé leur qualité en transition et ils ont
toujours pas de but, mais pas de quoi s'inquiéter, en tout cas pas encore. C'est le sentiment d'Emmanuel Petit à l'analyse.
19 minutes de jeu ici à Dallas, 0-0 entre la France et l'Espagne. Bon, globalement c'est chacun son tour d'avoir le ballon, c'est vraiment équilibré, Manu.
Oui, c'est un combat de boxe, mais pour l'instant les deux équipes ont beaucoup de mal quand même à rentrer dans les surfaces de réparation, donc ça reste quand même sans dangerosité.
Ouais. Jusque là, les deux équipes semblent jouer à égalité. Oui, jusqu'à la 19e minute.
Il y a Lucadine qui va mettre ce ballon de la tête
non,
il y a
pénalty.
Pénalty. Quelle erreur. Oui, c'est d'abord le premier contrôle de la tête.
Pas vrai.
Il met le pied haut, Lucadine. Pour au final heurter.
Le latéral gauche des Bleus, Lucadine, fait faute sur l'Espagnol Lamine Yamal.
On va pas l'accabler, Lucadine, mais honnêtement, c'est le mauvais choix qui est pris de contrôler ce ballon de la tête en se disant il aura le temps derrière de faire une deuxième touche de balle. Il doit écarter le danger tout de suite dès sa première tête. Il sent pas que Lamine Yamal va arriver derrière.
Faute dans la surface de réparation. Résultat,
pénalty pour l'Espagne.
C'est Michael Oyarzabal qui tire et qui convertit.
Et c'est le but. Le but espagnol. Aïe, 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 aïe. Il fait mal celui-là. Il était parti du bon côté, Mike Maignan. Mais Oyarzabal a placé ce ballon correctement. 1-0 pour l'Espagne dans cette demi.
Pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde, les Bleus sont menés au score. À la 37e, les Français frôlent même la catastrophe.
Oh, attention à Maignan, la touche de balle, elle était délicate et derrière il a perdu ce ballon au pied.
Le gardien français perd le ballon sur une mauvaise relance.
La remise de Yamal pour Olmo. Oh, la talonnade d'Olmo. Yamal. Oh, à côté la tentative de Fabián Ruiz. Oh, quelle action exceptionnelle de l'Espagne sur ce coup-là. Oh, quoi, ils font ça, ils sont trop forts les Espagnols.
Heureusement, les Espagnols échouent à marquer de nouveau mais les Français n'arrivent pas à débloquer la situation.
Rabiot en profondeur pour Mbappé. Allez, qui la touche là avant? Oh, l'intervention d'Unai Simon. Simon l'a touché, malheureusement.
Le gardien espagnol fait barrage. Sans compter que les Français, eux, enchaînent des situations proches du hors-jeu quand ils n'y sont pas carrément.
Peut-être une position de hors-jeu. En tout cas, ça a continué. L'action
ne
s'est pas
arrêtée. Il y est plus là que sur celle d'avant.
Ouais, probablement.
Alors, à la mi-temps.
Ils sont pas bien, les Bleus. Même dans la gestuelle d'Embélé, il est rarement autant agacé que cela. Il y a eu des regards qui ne trompent pas. Les Bleus ne sont pas dans leur assiette lors de cette première période de la demi-finale de Coupe du Monde. 1-0 pour l'Espagne.
Sans compter qu'à la 29e, le défenseur central William Saliba a demandé à sortir, blessé au dos. Et la reprise du match n'est pas plus heureuse pour les Bleus.
Minimal.
Allez, là, il y a eu deux duels gagnés. Barcola et derrière Tchouaméni pour obtenir cette touche. Et on a aperçu Didier Deschamps au fond de son siège.
Ouais, anxieux, sans anxieux.
Valentin. Ah,
complètement. Il est encore au fond, vraiment au fond de son siège. C'est exactement l'expression. Guy Stéphane est en train de lui parler à l'oreille, mais on le sent impuissant. Presque Didier Deschamps, il n'y a pas de consigne. Il n'est pas debout devant le banc en train de parler à ses joueurs. Peut-être qu'il réfléchit. On l'a fait accélérer d'ailleurs Désiré Doué au niveau de l'échauffement. Mais Deschamps est un petit peu abattu, en tout cas là, tout de suite, j'ai l'impression.
Toutefois, sur le banc comme dans les tribunes, on y croit. Jusqu'à la 58e minute.
Pedro Porro qui repasse par là, qui essaye d'avancer avec Olmolo 1-2. Attention, le duel. Pedro Porro, la frappe et le but. Le deuxième but de l'Espagne qui prend les devants dans cette demi-finale qui fait
l'Espagne mène maintenant 2-0.
L'agacement de Didier Deschamps qui s'est levé de son banc, qui a lâché une insulte évidemment avant de se retourner vers son staff et personne ne bouge. Les Bleus sont abattus, les Bleus sont touchés. Deschamps là qui essaye d'encourager un peu, d'applaudir et tous les Français qui sont d'ailleurs déjà en place pour le coup d'envoi. Mais on ne se parle pas, il n'y a pas de leader là qui est en train de bouger l'équipe de France qui passe à côté de sa demi-finale évidemment.
L'attitude des Français est inquiétante, défaitiste même. La tête basse, chacun est à son poste, mais personne ne se parle. De quoi se faire une frayeur, 3 minutes après le but.
Ah, il est seul, Yamal, il est seul face à Maignan. Yamal, le crochet de Vandine, et ça fait but, hors-jeu. But annulé.
Et à la 78e.
La frappe à venir d'Alex Baena, la tête de Ferran Torres. Ça passe juste à côté. Et heureusement, de la cage de Mike Maignan, là, ça aurait...
En parallèle, il y a bien quelques occasion française.
Allez Dembélé, inventer quelque chose, tenter un contre un, dribbler, il va trouver Mbappé. Mbappé, la frappe de Mbappé à côté. La tentative de Kylian Mbappé contrée. Oh, il aurait pu sonner la révolte.
Mais ça ne passera jamais.
Désiré Doué, il n'y a plus de gardien. Désiré Doué, la frappe. Oh, l'arrêt de Unai Simon qui était revenu. Voilà peut-être la première occasion pour les Bleus. Et rendez-vous compte, l'occasion, il fallait un miracle.
Conclusion.
Cette finale, elle sera pour l'Espagne.
C'est fini.
Le vainqueur donc d'Argentine. Angleterre, c'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols. Ils peuvent rentrer tête basse après cette défaite 2-0.
Le bilan des Bleus est bien maigre. 3 tirs cadrés, 2 d'Ousmane Dembélé. Alors que cette équipe était parvenue à marquer 16 buts lors des 6 matchs précédents. Mais voilà, pas de quoi décrocher une 3ème étoile après les victoires de 98 et de 2018. Sur le terrain, la détresse des joueurs saute aux yeux.
La tête dans le maillot pour Désiré Doué qui a les mains sur les genoux. Manu Koné qui a mis un genou à terre, tout comme Dayot, Pamecano, Jules Koundé, Tassi. On a vu Kylian Mbappé vite retourner également vers le banc. Théo Hernandez qui se tient le visage avec les mains. Et il y a une grande détresse de certains joueurs, honnêtement. Mbappé est allé voir Didier Deschamps, qui pour l'instant reste un petit peu stoïque, un petit peu de marbre.
En face, c'est la jubilation chez les Espagnols, joueurs comme supporters, qui lancent des olés narquois aux tribunes tricolores.
Le message est clair. Nous avons affronté une des meilleures sélections du monde, mais en face se trouvait la meilleure équipe du monde.
Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne.
C'est essentiel. Cette équipe est avant tout un collectif, et un collectif comme celui-ci est impossible à arrêter. C'est le sentiment qui nous anime aujourd'hui.
Commentaire de match du capitaine Mbappé devant la presse, on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, que ce soit tactiquement, même techniquement ou dans le niveau global qu'on a fourni. Didier Deschamps raconte l'ambiance après le match.
Écoutez, la déception, elle est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je comprends, l'ambition était là, il y a un groupe de compétiteurs, donc de s'arrêter, ça fait mal après.
Mais le sélectionneur interroge aussi la presse.
Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je ne vais pas y répondre.
pas au niveau l'arbitre du match, le salvatorien Ivan Barton. Certes, il a été plutôt laxiste, il a laissé jouer dans des moments litigieux, mais c'était les consignes dans ce mondial. Et quand on fait les comptes, il a sifflé 11 fautes françaises, 12 espagnoles. Quant au carton, il en aura distribué 2 aux bleus, un à Rabiot donc et un autre à Mbappé à la 86e, contre un seul aux espagnols. Les Bleus peuvent encore repartir avec un lot de consolation, la 3e place, réponse à l'issue d'une petite finale qui les opposera soit à l'Angleterre, soit à l'Argentine, le 18 juillet.
Bonjour Jean-Louis Tour.
Bonjour.
La Voix du Foot sur RMC, on a entendu vos commentaires dans le récit. Étrange défaite que cette demi-finale pour les Bleus dominés de bout en bout. Qu'est-ce que c'est? Ils ont offert un mauvais football ou est-ce que les Espagnols étaient vraiment trop bons?
Oh, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. On a pris une leçon de football, ça c'est sûr, par cette équipe espagnole, parce qu'ils ont toutes les qualités pour annihiler les nôtres de qualité qu'on a pu voir depuis le début de la compétition. Et en plus de leurs qualités, eh ben on a raté notre match, on a raté le rendez-vous sur plusieurs aspects, au niveau des choix du sélectionneur, au niveau du niveau individuel de plusieurs de ces joueurs, en ajoutant à cela des erreurs individuelles comme celle de Lucas Digne sur le penalty, et ben ça fait que le match s'enclenche mal. Et derrière, lorsque l'Espagne est dans un fauteuil à pouvoir développer son jeu, ça donne le match qu'on a eu hier soir.
Oui, parce qu'en fait, on a eu le sentiment que les Espagnols venaient dérouler leur match, venaient dérouler leur jeu là où les Français se sont laissés mener. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'une équipe, à un moment, arrive à donner sa couleur au match et l'autre se laisse guider?
Je pense que Kylian Mbappé l'a très bien expliqué. Il y a des histoires tactiques à certains endroits du terrain où les Français ont été déficients. Et en plus de ça, ils n'ont pas réussi collectivement à courir ensemble. Et ça, contre l'Espagne, si on n'arrive pas à courir ensemble, à synchroniser les mouvements et les courses, et ben eux, ils vont toujours trouver de joueurs libres et tout sera beaucoup plus facile pour eux. C'est ce qui s'est passé. Et en plus de ça, les Français qui ont des qualités, notamment de vitesse, de puissance, de percussion à faire valoir contre l'Espagne, et ben ils ont été incapables de le faire hier, surtout à partir du moment où l'Espagne a mené. Et là, après, tout était beaucoup plus facile pour eux.
Voilà, on va détailler peut-être point par point ce qui a manqué aux Français. Mais d'abord, il y a ce premier but sur un pénalty des Espagnols, pénalty accordé après ce coup de pied de Lucas Digne. C'est l'erreur originelle de ce match, c'est le moment à partir duquel plus rien ne peut arriver dans le bon sens.
Oui, c'est la bascule malheureusement pour Lucas Digne, qui est un joueur d'expérience, qui accumule pas mal de sélections, mais c'était son rendez-vous, lui qui a souvent été remplaçant dans cette équipe, c'était son rendez-vous parce qu'en plus il était en duel avec le meilleur joueur espagnol en face dans les joueurs offensifs, Lamine Yamal. Et malheureusement pour lui, je trouve que l'action illustre un peu tout le début de match des Français. Donc ça s'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre, mais j'ai eu l'impression que les Français se rendaient pas compte de l'intensité mise par les Espagnols et du niveau qu'il fallait avoir pour une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'on jouait un peu comme les matchs précédents où on avait un peu plus le temps de faire une touche de balle supplémentaire, d'avoir une seconde supplémentaire pour prendre une décision.
On a l'impression que les Bleus n'ont jamais été dangereux pendant ce match. Comment ça se fait que à ce moment-là, ils sont techniquement mauvais, ou en tout cas techniquement beaucoup moins bon que ce qu'ils ont pu offrir par le passé?
Et je pense que le souci, c'est qu'on a essayé de jouer à l'espagnol alors qu'on n'est pas capable de le faire. Selon moi, il aurait fallu accepter que juste ponctuellement, sur ce match-là contre l'Espagne, on revoit un peu notre façon de jouer, parce que à ce jeu-là, les Espagnols sont les plus forts, parce qu'ils sont habitués à jouer de cette façon depuis qu'ils sont tout petits. Dans tous les clubs, ça joue de la même façon. En France, c'est difficile de décréter ça.
C'est-à-dire, lentement, on est essayant de garder la balle sans coup d'éclat par rapport à ce que peuvent faire les Français?
Oui, disons que c'est la force du collectif. Les Espagnols considèrent que leur force sera toujours collective plus que le travail d'une individualité. Alors, ils ont quand même des individualités exceptionnelles, bien sûr, hein, mais d'abord, c'est le collectif qui prime. Alors, la France essaie de le faire aussi depuis les premiers matchs, mais quand on joue contre le maître, entre guillemets, dans ce jeu-là, c'est difficile. Et la seule façon d'être dangereux, parce que des équipes qui ont joué l'Espagne et qui ont été dangereux contre eux dans cette Coupe du Monde, il y en a eu. On est peut-être l'équipe qui a été la moins dangereuse contre l'Espagne depuis le début de la Coupe du Monde. Or, on a des talents indéniables dans cette équipe. Alors, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les autres ont accepté de ne pas pouvoir faire le jeu d'Espagne, comme le Portugal, comme la Belgique, et en essayant tout de même d'être dangereux. En foot, c'est pas tout le temps le meilleur qui gagne. Hein. Donc, l'Espagne était meilleure à chaque fois que ses adversaires, mais c'est pas pour autant que les matchs étaient déjà gagnés. Or, nous, on a essayé de jouer comme eux, et en le faisant mal, ça a produit ce match où on n'a presque pas eu d'occasion pendant 90 minutes.
Que vous décrivez, Jean-Louis, c'est un problème de tactique, c'est donc un problème du sélectionneur. C'est Didier Deschamps qui a fait les mauvais choix pendant ce match.
Alors, je pense que Deschamps a raté son match. Après, lui imputer toute la responsabilité de la défaite c'est rarement possible. C'est quand même les joueurs sur le terrain qui auraient pu se prendre en main, qui auraient pu s'adapter eux-mêmes à certaines choses. Mais c'est vrai que Deschamps, il a dans le passé su être acteur des rencontres, même quand ça n'allait pas. Moi, je calque beaucoup ce match par rapport à la finale de 2022 que l'on perd contre l'Argentine, où pendant 80 minutes, je pense qu'on vit à peu près la même chose qu'hier soir. C'est-à-dire qu'on est complètement dépassé dans le jeu, les Argentins font tout ce qu'ils veulent à ce moment-là, et nous, on n'arrive pas à exister. Et à ce moment-là, Deschamps, il fait des choix forts. Il sort Giroud, il sort Griezmann, qui étaient des tauliers de l'équipe, et il sent bien qu'ils ne sont pas dans leur assiette, que ce n'est pas leur match. Or, hier, il ne fait aucun choix fort de la sorte. Il aurait pu sortir un attaquant, rajouter un milieu de terrain, il aurait pu sortir certains joueurs en méforme ou en difficulté. Il le fait avec Adrien Rabiot à la mi-temps.
C'est vrai qu'il était très rigide sur la répartition des postes.
Voilà, il fait un changement fort, c'est la sortie d'Adrien Rabiot à la mi-temps, mais il se réfugie derrière le carton jaune qu'il a reçu. Or, Adrien Rabiot est le meilleur milieu de terrain en première période.
C'est limite un excès de prudence.
C'est un excès de prudence parce que, en plus, Adrien Rabiot est le meilleur milieu de terrain français en première période. Donc, on a vu la différence au moment où il était sorti.
Mais il a peur du carton rouge.
Il a peur du carton rouge, mais le carton, il le prend à la 8e minute, Adrien Rabiot, et jusqu'à la 45e, il fait une faute à la fin de la mi-temps, mais sinon il arrive à se tenir et je pense que les joueurs pros sont capables de faire un match sans prendre de carton jaune. Donc il y a Rabiot, donc le choix peut être discutable. Je pense que la présence de Tchouaméni peut aussi être discutable. Il était blessé aux adducteurs et on a bien senti qu'il n'était pas à 100% sur ce match. Et l'autre question, c'est est-ce que pendant le match il n'aurait pas dû changer la façon de jouer, dire on joue plus bas, on va attendre les Espagnols et on va jouer sur notre vitesse en contre-attaque, voire peut-être à sortir un des attaquants pour rajouter un milieu de terrain. En tout cas, il avait plein de choses à faire et à l'arrivée, il a donné le sentiment, voilà, je me suis adapté sur cette Coupe du Monde, je vous ai mis plus d'attaquants que sur les éditions précédentes, et ben on va aller jusqu'au bout avec cette idée-là, et on va pas se renier. Le Deschamps pragmatique qu'on a été habitué à voir n'était pas là forcément hier soir.
Vous avez décrit aussi, Jean-Louis, ce qu'ont fait les joueurs sur le terrain avec une incapacité à se prendre en main. Il y a une part d'irrationnel dans un match qui tient à la flamme, à l'envie. Il y avait un désengagement des joueurs français, une sorte de manque émotionnel. Vous l'avez senti, vous, depuis ce stade à Dallas ?
Je n'irai pas jusque-là parce que je peux pas croire que des joueurs n'aient pas conscience de l'événement, de la portée d'une demi-finale de Coupe du Monde, de l'importance. Alors peut-être certains ont été écrasés sous le poids de l'événement, mais c'est des joueurs qui ont connu quand même les plus grands matchs en Ligue des Champions avec leur club, qui ont connu déjà des finales de Coupe du Monde pour certains. Donc j'ai du mal à imaginer ça. Alors peut-être aussi que j'ai mis des hypothèses, hein, parce que je suis pas dans la tête des joueurs, hein, c'est vraiment ce que j'ai tenté de percevoir au stade. Mais j'ai eu l'impression que justement pour ne pas se faire écraser par le poids de l'événement, ils ont pas arrêté de dire qu'il fallait être serein, qu'il fallait être tranquille, qu'il fallait faire les choses un peu comme d'habitude. Didier Deschamps l'a évoqué aussi, en cherchant de la sérénité de cette façon. Bah, peut-être qu'ils sont tombés dans trop de sérénité, au lieu de prendre conscience de ce qu'était vraiment de ce qu'une demi-finale de Coupe du Monde réclamait en termes d'intensité et d'état d'esprit. C'est peut-être ça l'une de leurs fautes.
Sérénité ou prétention après avoir passé tout le début de cette Coupe du Monde à être les grands favoris ?
Peut-être qu'il y en a eu un peu de la prétention à force d'entendre les commentaires, à force de voir tout le monde annoncer que la France serait championne du monde.
Ouais, ça monte forcément à la tête.
Moi je mettrais plus sur un... Ils n'ont peut-être pas assez estimé le niveau de l'Espagne, ou en tout cas, ils se sont trompés dans la lecture du match, plutôt que d'avoir trop confiance en eux. Parce que cette confiance, c'est inhérente à la vie d'un sportif de haut niveau. Cette équipe de France, ils sont sûrs de leur force. Ça leur a permis de mettre 3 buts à tout le monde jusque-là. Mais je pense que contre un autre adversaire que l'Espagne, on aurait été bien meilleur. Juste, on a un problème avec l'Espagne. Et ils ont le jeu parfait pour nous déjouer. J'y disais tout à l'heure, ils ont les qualités parfaites pour annihiler les nôtres de qualité. Ça fait 3 fois de suite qu'on perd contre eux en grande compétition, à l'Euro 2024, en Ligue des Nations un an après. Et là, donc, à la Coupe du Monde, on ajoute la finale des Jeux Olympiques aussi, où ils nous ont baladés avec des joueurs plus jeunes. Donc, on a un vrai problème contre l'Espagne, contre leur façon de jouer. On nourrit un complexe, même, je pense, un peu psychologique. Et à mon avis, c'est plus ça le problème, un problème lié à l'Espagne qu'un problème global d'excès de confiance de cette équipe.
Bon, on a évidemment cette demi-finale qui laisse un goût amer, mais au-delà du football, ça a été un beau mondial pour les Bleus, derrière lesquels les Français sont réunis. Quel spectacle est-ce que les joueurs ont offert au-delà du sport ?
Oui, bah alors après, effectivement, moi je suis contre l'idée qu'une défaite fasse tout oublier. Il y a quand même, il s'est quand même passé quelque chose autour de cette équipe de France, autour du jeu spectaculaire de cette équipe de France, des choses qu'on ne voyait pas sur les années précédentes. Là, les matchs que l'on décrit comme faciles aujourd'hui en disant bah, ça valait rien par rapport à l'Espagne, c'est sûr que c'est pas la même adversité. Mais ces matchs faciles dans le passé, on avait du mal à les gagner. Là, on s'est baladé jusqu'aux demi-finales en mettant plus de 3 buts en moyenne par match à chaque fois. Donc au niveau du spectacle, au niveau du jeu, il s'est passé quelque chose. Au niveau de l'engouement aussi, je pense qu'en France, tout le monde était a suivi les matchs de l'équipe de France plus encore que sur le dernier Euro où le spectacle n'était pas au rendez-vous. Aux États-Unis où je suis encore, il s'est passé quelque chose autour de l'équipe de France qui est devenue l'équipe des Américains. On a vu des maillots, des bleus fleurir partout dans les rues, que ce soit de Boston, de New York ou même ici à Dallas. Il s'est passé quelque chose autour de cette équipe de France. Bien sûr, il va falloir tirer les conclusions d'une telle défaite et d'un tel non-match, mais il ne faut pas oublier non plus tout ce qui s'est passé depuis le début de la Coupe du Monde.
C'est quoi l'esprit de cette équipe de France 2026 qui certes ne l'a pas emporté mais est allé très loin? C'est des joueurs qui n'étaient pas nés ou à peine en 98, qui par contre étaient mômes en 2010 lors de la grève des Bleus à la Coupe du Monde en Afrique. Quelle est la patte de cette équipe?
Bon, c'est une équipe qui a des individualités très fortes, qui joue dans les meilleurs clubs du monde, à presque tous les postes, et c'est surtout une équipe qui est tournée vers l'avant, vers les arguments offensifs, et ça, des équipes qui essayent de gagner par l'attaque. Dans l'histoire de l'équipe de France, on n'en a pas eu depuis un moment. Le titre de 98, la force, c'est la défense. Le titre en 2018, la force, c'est aussi la défense, avec des individualités qui arrivent à faire la différence. Déjà Kylian Mbappé à l'époque, il y avait Antoine Griezmann aussi. Les plus grands succès français, hormis les années 80 à l'époque de Michel Platini, ont été bâtis sur la défense. Donc là, on a tenté autre chose sur cette Coupe du Monde, de se servir du potentiel qu'on avait entre Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et qui a un but du record de Lionel Messi en Coupe du Monde, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, depuis l'année dernière, Michael Olise qui est monstrueux avec le Bayern. Donc l'idée, c'était de mettre en valeur ce trio-là et de s'appuyer là-dessus pour gagner. Mais on s'est rendu compte que peu importe les qualités offensives de tous ces joueurs, si on n'avait pas un collectif fort autour, on est incapable d'exister contre l'Espagne.
Vous avez dit qu'il y aura des leçons évidemment à tirer de cette Coupe du Monde. Didier Deschamps lui va laisser la place, certainement à Zinedine Zidane qui devrait récupérer le poste de sélectionneur. C'est un secret de polichinelle. Est-ce que cette équipe de France très offensive, c'est le projet que pourrait prolonger Zinedine Zidane?
Ça va être toute la question. Ça va être intéressant à voir parce que Zidane, on ne peut pas dire non plus que ce soit un entraîneur très espagnol dans la façon de voir les choses. Lui, les références qu'on a autour de Zidane, c'est d'ailleurs une expérience en Espagne, mais qui est pour moi très éloignée de ce qu'on peut voir avec la sélection espagnole, puisqu'il a entraîné le Real Madrid, une équipe constituée de stars internationales, plus que de jeunes espagnols formés au pays. Donc il a cette première expérience, mais c'était plus, je pense, une expérience de manager où il s'est retrouvé comme un poisson dans l'eau parce qu'il devait gérer des très grands joueurs, de très grandes stars comme il l'a été, et donc il était la personne parfaite pour parler à des Cristiano Ronaldo, à des Benzema, à des Modric, à des joueurs comme ça à grande stature, plus qu'un projet de bâtisseur, de formateur qui est capable d'imposer un style de jeu à une équipe. Ça, on ne l'a pas vu faire encore. Avec le Real, ce n'était pas ça. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Mais là, on va attendre autre chose avec l'équipe de France et ça va être intéressant de voir ce qu'il va être capable d'apporter par rapport à Didier Deschamps au niveau du jeu, en sachant qu'il a un héritage technique d'entraîneur plus italien qu'espagnol. Lui qui a joué à la Juve comme Deschamps d'ailleurs. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir apporter de différent.
Merci Jean-Louis Tour d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. On ne vous entendra pas donc commenter une finale avec les Bleus, mais on vous retrouvera le samedi 18 pour la petite finale.
Exactement, la petite finale à Miami et la finale le lendemain tout de même sur RMC, mais sans la France effectivement.
Oui, parce que l'équipe de France n'y sera pas, mais vous y serez vous.
Eh oui, j'ai cette chance.
Merci Jean-Louis.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.